Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, gourou, tueur en série et psychopathe, il était tout cela à la fois. Charles Manson est mort cette nuit dans une prison américaine. Barbe grise et croix gammée, il avait été condamné à la prison à vie dans les années 60. En Allemagne, la fin de la baraka peut-être pour Angela Merkel. Le pays entre en crise politique après l'échec des négociations pour former une coalition. Les Allemands vont peut-être devoir revoter. Quand Robert Mugabe fait de la résistance, donné partant le dictateur qui règne depuis 37 ans sur le Zimbabwe, a pris tout le monde de court hier à la télévision. 20 minutes de discours pour parler de tout, sauf de son départ. 178 millions en moins pour Marseille, 150 pour Paris. Combien les villes vont-elles perdre dans la réforme de la taxe d'habitation? On commence à y voir un peu plus clair ce matin. À 8h20, votre invité, Nicolas, il vient de prendre la tête du parti majoritaire. Il va peut-être prendre la porte du gouvernement. Vous recevez Christophe Castaner.
Oui, on appelle son poste délégué général. Il est le nouveau et premier délégué général de La République En Marche. Vos questions dès maintenant. 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, la fin du suspense pour Lille, qui saura aujourd'hui si elle accueille l'Agence européenne du médicament. Un nouveau logiciel anti-paperasse pour les gendarmes. Le rugby français qui boit la tasse et qui cherche les moyens de rebondir. Et puis la journée internationale des droits de l'enfant avec un joli cadeau offert par l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Il était le visage de l'horreur, l'homme qui en 1969 avait fait sauvagement assassiner 7 personnes, dont l'actrice Sharon Tate. Le tueur en série Charles Manson est mort cette nuit dans une prison de Californie après 40 ans passés derrière les barreaux. Toutes ses demandes de remise en liberté avaient été rejetées, Grégory Phillips.
Aux yeux de beaucoup d'Américains, Charles Manson représentait le mal absolu, une croix gammée tatouée sur le front. Lors de ses procès ou les nombreux entretiens qu'il a accordés à la télévision, des propos incohérents, un regard noir et effrayant. En 1993, sur ABC, la journaliste Diane Sawyer lui demande s'il est fou.
Is Charlie Manson crazy?
Nowadays, everybody's crazy. Vous savez, répond Manson, aujourd'hui tout le monde est fou. Et vous êtes folle, habillée comme ça en noir, vous pensez que je ne sais pas ce que ça veut dire? À la fin des années 60, Charles Manson est un gourou qui, dans le désert californien, fonde une petite secte, la Manson Family. L'homme se prend pour le Christ et entend dans les albums des Beatles, notamment, des appels au meurtre. En août 69, il ordonne à ses disciples d'aller assassiner 7 personnes, dont Sharon Tate, alors enceinte de 8 mois et demi, elle est l'épouse de Polanski. Manson est condamné à mort, puis la sentence est commuée en peine de prison à perpétuité. Dans un autre entretien télévisé, on lui demande s'il a des regrets. On n'arrête pas de m'interroger sur mes remords. Qu'est-ce que ça signifie, je suis désolé? Le nom de Charles Manson a imprégné la culture américaine. De nombreuses chansons lui ont été consacrées, des livres, des documentaires, des séries télévisées. Il est mort après avoir passé plus de 40 ans derrière les barreaux. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Manson, parcours d'un gourou psychopathe, dossier à découvrir sur franceinter.fr. Il avait 83 ans.
8h03, c'est une crise politique, Marc, comme l'Allemagne en connaît peu.
Oui, dans un pays où le consensus politique est érigé en règle, Angela Merkel vient donc de subir un sérieux revers cette nuit. Les libéraux, avec qui elle négociait pour former une coalition, ont claqué la porte des discussions. Et voilà la chancelière esselée et affaiblie comme jamais, visage grave au moment de tirer les leçons de cet échec.
De notre point de vue, CDU et CSU, nous avions beaucoup avancé dans ces discussions, de quoi renforcer la stabilité du pays, tout comme sur les questions économiques ou également la difficile question des attentes des Verts sur le réchauffement climatique. Mais maintenant, nous devons quand même faire avec la réalité. Et la réalité, c'est que nous n'avons pas réussi à clore les discussions avec succès, ce qui veut dire que je vais prendre contact avec le président ce lundi et nous verrons quelle sera la suite.
Cela faisait un mois que les négociations s'enlisaient. Bonjour Cyril Sauvageau.
Bonjour.
Correspondant de France Inter à Berlin, Angela Merkel a-t-elle encore des cartes en main?
Eh bien, pas vraiment, hein, dans la mesure où elle n'aura pas de majorité pour gouverner. Ce mariage à trois avec les Verts et les Libéraux, c'était sa seule option, compte tenu du résultat des législatives. En théorie, une grande coalition avec les sociaux-démocrates serait encore possible, mais le SPD a à nouveau décliné l'offre cette nuit. Reste donc deux possibilités. Soit Angela Merkel forme un gouvernement minoritaire, c'est-à-dire qu'elle devra négocier au coup par coup au Parlement à chaque projet de loi pour réunir une majorité, avec le risque d'une instabilité permanente, ou bien, hypothèse la plus vraisemblable, il y aura de nouvelles élections début 2018 et ça, c'est le président fédéral qui doit en prendre la décision.
Et dans ce cas, Cyril, en cas de nouveau scrutin, est-ce que c'est elle qui conduira les conservateurs de la CDU ?
La question va très vite se poser parce qu'Angela Merkel sera forcément tenue responsable de l'échec des négociations. C'est elle qui devait trouver un compromis. Elle n'y est pas parvenue, symptôme d'une chancelière fragilisée, incapable de peser sur les discussions et qui a laissé les Verts, les libéraux, les conservateurs s'entre-déchirer pendant des semaines. Doit-elle se retirer, laisser sa place en cas de nouvelle campagne? C'est ce que pense une majorité d'Allemands selon un sondage pour le journal Die Welt. Problème au sein de la CDU, la succession n'est absolument pas prête. C'est donc une période de doute et d'instabilité qui s'ouvre en Allemagne.
Cyril Sauvageau en direct de Berlin, merci à vous. Quand le dictateur s'accroche, tout le monde le donnait sur le départ, mais visiblement Robert Mugabe a bien l'intention de conserver encore un peu le pouvoir au Zimbabwe. 5 jours après le coup d'état des militaires, le vieux chef s'est exprimé à la télévision hier soir, avec pas moins de 5 généraux à ses côtés. Discours surréaliste et pied de nez à ses opposants. Il s'est d'abord félicité des pluies tombées sur son pays. Elles ont été bonnes, a-t-il dit, avant d'évoquer les légers désaccords que vient de traverser le Zimbabwe. Aucune démission à l'horizon, alors même que son propre parti l'a lâché hier en menaçant de le destituer. Écoutez Virginie Roiron, elle est spécialiste du Zimbabwe.
Il conteste toujours la légalité en fait de ce qui est en train de se passer. Pour lui, c'est illégal. Il considère que c'est un coup d'État. Et il compte sur la réaction de l'organisation régionale, la SADC, qui a dans ses statuts la possibilité d'intervenir dans le cadre d'un conflit interne à un État, notamment s'il y a un coup d'État qui vise à renverser l'autorité légitime. Et lui considère que c'est ce qui est en train de se passer. Or, les militaires essaient de rester dans le cadre de la Constitution, justement pour ne pas faire de faux pas sur ce point. On est vraiment dans une bataille un petit peu juridique pour la légitimité qui se passe dans le cadre très constitutionnel finalement. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il est actuellement président sans être le leader du parti. Or, le Parlement qui va se réunir mardi va lancer la procédure de destitution. Donc oui, les jours de Mugabe à la tête du Zimbabwe sont vraiment comptés.
Virginie Roiron interrogée par Olivier Poujade. Elle venait chercher de la farine pour nourrir leur famille au Maroc. 15 femmes sont mortes hier dans une bousculade lors d'une distribution d'aide alimentaire. Dans la région d'Essaouira, près d'un millier de personnes s'est amassée sur la place du village. L'un des plus pauvres du pays, le roi Mohamed VI, a annoncé l'ouverture d'une enquête. Il promet de prendre en charge personnellement les frais liés aux obsèques des victimes et des soins des blessés.
Inter 8h08, c'est l'une des grandes réformes fiscales du quinquennat, mais elle va faire mal au portefeuille des communes.
Quels seront les grands perdants de la réforme de la taxe d'habitation? Pas les contribuables, hein, évidemment, qui vont l'avoir baissée de 30% l'an prochain et qui ne la paieront plus d'ici 3 ans. Mais pour les villes qui la perçoivent, cela pourrait créer des difficultés. Bonjour Michael Thébault.
Bonjour Marc.
Le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, publie les conclusions d'un rapport du Sénat qui chiffre ville par ville le manque à gagner et cela crée des situations, disons, inédites.
Inédites et même cauchemardesques hein, pour de très nombreux élus. En 2020, on comptera par exemple 52 communes où plus personne ne paiera la taxe d'habitation. Dans 131 autres communes, il n'y aura plus qu'un seul foyer assujetti, un seul ménage, donc censé financer la rénovation de la salle des fêtes ou du gymnase. Plus insolite encore, recours dans les Vosges où l'on passera de tout le monde paye à 100% de foyers exonérés. Alors bien sûr, les villes les plus riches sont celles qui s'en sortiront le mieux. Il y aura toujours des habitants aisés pour continuer à payer. À Lyon, par exemple, le manque à gagner est estimé à 78 millions d'euros en 2020, avec 71% de foyers exonérés. Mais les finances municipales sont solides, les autres sources de revenus importantes, ce qui n'est pas le cas de Marseille, qui verra s'envoler près de 180 millions d'euros, avec plus de 8 ménages sur 10 désormais exonérés. Et la promesse de compensation par l'État à l'euro près laisse les élus franchement sceptiques, car à l'avenir, les maires qui le souhaitent ou qui n'ont pas le choix pourront augmenter leur taux. Mais l'État, lui, n'augmentera pas proportionnellement son remboursement. Ce qui veut dire qu'in fine, ce sont bien les contribuables les plus aisés qui passeront à la caisse.
Merci Michael Thébault. Elle quitte Londres pour cause de Brexit. Mais qui va accueillir l'Agence européenne du médicament? Fin du suspense aujourd'hui pour les 19 villes candidates, parmi lesquelles Lille, qui espère bien récupérer l'agence et ses 900 employés européens. Mais face à la capitale du Nord, il y a de très sérieux clients. Amsterdam, Bonn, Barcelone, Bratislava. Et sur place, dans le Nord, on estime que l'Élysée n'a pas forcément joué le jeu. Frédéric Mettezo.
Politiques de droite et de gauche, chercheurs, universitaires, milieux économiques, préfets, c'est l'union sacrée sur ce dossier. Un maire n'avait pas vu ça depuis 22 ans et la candidature de Lille aux Jeux Olympiques. À Eurasanté, le grand pôle de recherche scientifique lillois, un dirigeant raconte collant des cas Cazeneuve ont été exemplaires pour soutenir le dossier nordiste. Mais en septembre, changement de discours. Emmanuel Macron défend en même temps la candidature de Paris contre Francfort pour accueillir l'agence bancaire européenne. Et aujourd'hui, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, trouve que l'Élysée n'en fait pas assez. Son entourage ajoute qu'il s'en fout de l'agence du médicament. Il est sur sa stratégie européenne. Lundi dernier, Emmanuel Macron a promis à Xavier Bertrand et Martine Aubry de peser de tout son poids dans le dossier. Mais un conseiller régional craint que cela ne suffise pas. On a fait le job. Maintenant, ça se joue entre États. C'est de la réelle politique. C'est du troc. Si on l'emporte, ce sera une sacrée surprise.
Verdict attendu à la mi-journée à Bruxelles. On connaîtra également le futur siège de l'autorité bancaire européenne, qui elle aussi fait ses bagages et s'apprête à quitter Londres. Là, ce sont 8 villes, parmi lesquelles Paris et Francfort, qui se battent pour rafler la mise. Sera-t-il large ou plutôt restreint? Question du jour à l'Élysée, alors qu'un remaniement ministériel est attendu, a priori d'ici mercredi. Christophe Castaner, tout juste élu à la tête de La République En Marche, devrait perdre son titre de porte-parole, mais la question est de savoir s'il reste ou non au gouvernement. Il vous le dira peut-être, Nicolas. On va tenter en tout cas à votre micro dans quelques minutes.
8h11, un nouveau couteau suisse pour les gendarmes.
Il s'appelle Néogende, il équipera bientôt tous les gendarmes de France. De quoi s'agit-il? D'une tablette numérique qui permet aux militaires de vérifier quasi instantanément les informations sur une voiture ou sur son conducteur, avec à la clé bien sûr un gain de temps et moins de paperasse. Reportage en Charente, Pierre Marsat.
Coupez le contact s'il vous plaît et présentez les papiers du véhicule, le permis de conduire, la carte grise et l'attestation d'assurance s'il vous plaît.
Au rond-point des Pierres à Magnac-sur-Touvre, c'est un contrôle de routine dans le cadre d'une opération anti-délinquance. Sur sa tablette, le gendarme Gori se connecte.
Je tape l'immatriculation. Tac. Donc là, après, on peut voir tout ce qu'il y a sur le véhicule, à qui il appartient, son adresse, si le contrôle technique a été effectué dans les temps, tout ça.
C'est un contrôle très rapide. Le but, c'est de gagner du temps pour tout vérifier. Le gendarme Sachaud de la brigade de gendarmerie d'Angoulême.
C'est vrai qu'aujourd'hui, la technologie qu'on a au niveau gendarmerie permet de faire des contrôles un peu plus rapides sur le terrain.
Pour le conducteur, le gain de temps est précieux. Philippe n'est de toute façon pas habitué au contrôle.
C'est le premier contrôle que j'ai depuis un certain temps. Non, ça a l'air d'aller pour l'instant, voilà.
Le système Néogende pour nouveau et gendarmerie est déployé en ce moment en Charente. Toutes les unités sont équipées d'une tablette et 307 smartphones individuels sont distribués avec une formation adéquate. Une application permet de vérifier aussi les passeports. L'adjudant-chef Pascal Robin.
Donc là, ça nous permet effectivement à la lecture de constater que la bande magnétique et toutes les informations correspondent bien à l'identité de la personne.
Le système Néogende permet aussi de verbaliser sur place. Il offre à chaque gendarme une messagerie personnelle et une appli photo pour les constatations d'usage après un cambriolage, par exemple.
Un reportage Pierre Marsat. À son nom, les pro-corrida voyer rouge. Jean-Pierre Garrigue est mort ce week-end à 53 ans. Militant de la cause animale, il était connu pour ses opérations coup de poing pendant les corridas.
Le rugby français chaos debout.
L'équipe de France vient d'enchaîner une 5e défaite consécutive. C'était samedi soir face à l'Afrique du Sud. Et le staff tricolore paraît sur la sellette. Le sélectionneur Guinovès, présenté comme le sauveur des Bleus, n'a pas réussi de miracle. Une nouvelle défaite le week-end prochain face aux Japonais pourrait bien signer son départ. Et la fédération, Jérôme Val, est en pleine réflexion.
Bernard Laporte, le président de la Fédération française et à ce titre le patron de Guinovès, était en visite hier après-midi à Saint-Denis, près de Paris, pour assister au match du club local, à quelques mètres donc du Stade de France où samedi soir les Bleus se sont enlisés un peu plus. Il n'a pas dit un mot sur la situation de Novès et de ses adjoints, leur laissant un sursis, mais l'étau se resserre autour des trois hommes. Laporte, auréolé de son statut de nouveau Messi du rugby français après l'obtention de la Coupe du Monde 2023, se laisse quelques jours pour prendre des décisions fortes, par exemple remanier le staff avec l'arrivée d'un super manager au-dessus de la tête de Novès. Et même si hier matin les discours des entraîneurs se voulaient optimistes pour l'avenir, il y a urgence. Ce 15 de France donne la désagréable sensation de régresser, bien loin des promesses entrevues il y a un an à peine lors de la tournée d'automne 2016. Les Bleus avaient accroché l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ce temps-là semble bel et bien révolu.
La Ligue 1 et Marseille qui ratent l'occasion de monter sur le podium. Tenu en échec à Bordeaux, un partout hier soir, l'OM est quatrième. Et puis en tennis, c'est le Bulgare Grigor Dimitrov qui remporte le Masters de Londres. Victoire en 3-7 face au Belge David Goffin qui va maintenant préparer la finale de Coupe Davis. Ce sera à partir de vendredi face à la France.
Enfin, quand les jeunes prennent le pouvoir.
C'est aujourd'hui la journée mondiale des droits de l'enfant et à cette occasion, l'UNICEF multiplie les initiatives dans les entreprises, à l'école, à l'Élysée, où les jeunes seront reçus cet après-midi. Depuis 10 ans, l'Orchestre Philharmonique de Radio France est ambassadeur de l'UNICEF avec des concerts, des interventions en milieu scolaire et un joli cadeau cette année, puisqu'un enfant de 9 ans, Nino, a été invité à diriger les répétitions pendant quelques minutes. Olivier Doise est au bois, solo au sein de l'orchestre, et Jacqueline Petros lui a demandé ce qu'il retenait de cet engagement.
L'éducation par la musique, elle structure les enfants, elle rapproche les enfants. Je me rappelle d'une tournée UNICEF qu'on avait faite en Amérique du Sud. On avait joué à Rio de Janeiro et on était allé dans les favelas à la rencontre des enfants, des écoles. C'était des moments très très forts. Et puis, musique en vol. C'était EasyJet qui est aussi ambassadeur de l'UNICEF. Et avec un petit groupe de l'orchestre, on avait été joué pour la première fois dans un avion en vol. Tout ça pour que l'UNICEF récolte des fonds pour la polio. Grâce à l'UNICEF, en 2019, la polio va être éradiquée. Donc vous imaginez bien que pour nous, participer à ce genre de choses, ça donne une responsabilité. Pour cette journée de l'enfant ce lundi, un petit garçon est venu diriger l'orchestre, on a fait un clip avec lui et il a découvert par exemple quelque chose de très important, c'est le rythme. Cette découverte du rythme était fondamentale chez lui.
Et les amoureux de classique auront peut-être reconnu ce morceau extrait de Ma mère loi de Maurice Ravel. C'est lui que le jeune chef d'un jour a dirigé, baguette à la main, la vidéo sur franceinter.fr.
Merci Marc Fauvel.